Johnny.
France Inter, le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, un jour à Gaza ce soir.
Now the latest on the crisis in Gaza. The U.S. organized more food drops there today. American C-130 cargo planes dropping desperately needed aid to hundreds of thousands of Palestinians.
La télévision américaine qui annonce le largage de denrées alimentaires sur Gaza. Bonsoir Fabrizio Carboni.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge. Les appels au cessez-le-feu immédiat ne prennent pas malgré la pression internationale. L'extrême sud de la bande de Gaza continue à être bombardé. Rafah, où s'entassent presque 1,5 million personnes aujourd'hui, reste sous la menace d'une offensive majeure. Vous, au CICR, c'est aussi vers vous qu'on se tourne lorsqu'on parvient à faire sortir des otages, ce qui ne s'est pas produit depuis très longtemps. Je me suis demandé très sincèrement, Fabrizio Carboni, comment j'allais commencer cette interview, parce que cette désespérance et cette impasse-là, j'ai l'impression que c'est la même et qu'on en parle maintenant depuis des semaines. Est-ce que vous, vous savez décrire ce qu'est la bande de Gaza aujourd'hui ?
C'est intéressant que quand vous avez préparé cette interview, vous saviez pas comment vous alliez commencer, parce que moi, je savais pas ce que j'allais vous répondre. Parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des mots. C'est-à-dire déjà au mois de novembre, décembre, on parlait de crise, de situation intenable. J'ai l'impression qu'on a décrit la crise humanitaire sous tous ses angles. On a déjà dit qu'on avait atteint une limite dans ce que les populations pouvaient subir et dans notre capacité à répondre. Et aujourd'hui, on est fin mars, début avril, et je sais plus comment décrire cela.
Ça veut dire que vous n'avez jamais rien vu de pareil, en fait.
C'est toujours difficile de comparer, parce que bon, on a quand même eu la Syrie, il y a le Soudan aujourd'hui, il y a le Congo. Ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement médiatisé, et puis c'est important de raconter et d'expliquer. Et on a tellement parlé, on a tellement raconté, on a tellement expliqué, on a tellement montré qu'on arrive dans une situation où la grammaire de la communication atteint ses limites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une situation de presque guérilla humanitaire. C'est-à-dire, on est toujours sur la brèche à trouver la moindre opportunité pour sortir de nos bases, de nos maisons, d'essayer d'atteindre des populations civiles, de nos hôpitaux qui sont, nos équipes chirurgicales qui sont 24 heures sur 24 en action. Mais on atteint une limite.
Et justement, comment ça marche, très sincèrement? Quel accès vous avez? Comment la population a accès à vous? Quelle liberté de mouvement vous avez? Comment, de toute façon, vous, le CICR, vous arrivez à travailler en ce moment? Alors, à qui vous parlez?
Gaza est un champ de bataille. Et normalement, les humanitaires ne travaillent pas dans le champ de bataille. Les humanitaires ne sont pas dans les tranchées en Ukraine. On travaille à 1 km, 2 km, 5 km du champ de bataille où les gens fuient, où les gens sont détenus, où les gens sont pris en otage, où les gens ont besoin de services médicaux. La spécificité de Gaza, c'est qu'on travaille au cœur du champ de bataille. Donc, pour nous, pouvoir travailler avec un minimum de sécurité, c'est chaque mouvement. Mais sortir de la maison, c'est coordonner avec les forces armées israéliennes. Chaque mouvement.
Ça veut dire on appelle et on dit attention, oui. Nous sortons de la maison, voilà. Voici qui nous sommes, voici combien nous sommes, voici combien nous sommes habillés, comment nous sommes habillés, par exemple, vraiment.
Non, on passe dans ce détail-là, parce que je crois qu'on a, il y a des, je crois que ils savent où nous sommes, ce que nous avons, mais oui, il y a une notification du mouvement, une notification de l'action, et puis on a ou on n'a pas des feux verts. Et puis une fois qu'on a ces feux verts, on ne sait toujours pas ce qu'on va trouver. Quand on sort, on peut tout d'un coup se retrouver au milieu de combats, on peut se retrouver devant une route qui n'existe plus. Donc il y a cette action et improvisation permanente. Et puis le dernier point, il faut savoir que nos déplacements sont accompagnés systématiquement par des experts en déminage. Parce qu'on trouve soit des explosifs, des bombes qui n'ont pas explosé, il y a des bâtiments, on ne sait pas très bien s'ils sont stables, pas stables, est-ce qu'à l'intérieur il y a des explosifs. Donc c'est extrêmement compliqué et c'est vraiment une situation extrême.
Vous dites, Fabrizio Carboni, on a ou on n'a pas le droit de bouger. Est-ce que ça veut dire qu'en plus, vous avez rarement le droit de bouger ou est-ce que, assez régulièrement, si vous dites là nous allons sortir, nous allons à tel endroit, vous obtenez au moins cette autorisation ou pas ?
Oui, je crois qu'on peut bouger. Maintenant, c'est une situation de conflit. Donc nous, on ne s'attend pas non plus à avoir des feux verts en permanence. On est conscient, on est sur un champ de bataille, on est sur une situation de conflit. Les gens se battent, il y a des activités militaires permanentes. Donc on entend aussi qu'il y ait parfois des restrictions, et c'est ce qu'on attend aussi.
Et à l'intérieur de la bande de Gaza, à qui vous parlez ?
Alors, bon, évidemment, on parle, comme je l'ai dit, aux autorités, aux autorités israéliennes, mais puis ensuite, on parle avec la personne responsable de l'hôpital, on parle avec, par exemple, des comités qui se forment pour travailler sur des sources d'eau qui fonctionnent encore pour les faire, pour s'assurer que ça continue à fonctionner. Donc, il y a une espèce de... On s'adapte à l'environnement dans lequel on est et on parle avec... qui est en face de nous et est capable de faciliter notre travail et surtout de faciliter l'accès des populations palestiniennes à nos services.
Alors, on va y venir, effectivement, mais est-ce que vous, j'imagine que vous demandez régulièrement à avoir accès aux otages pour s'occuper de leur santé, etc. Là, est-ce que, c'est quoi les canaux, en fait ? Est-ce qu'il faut parler à ceux qui négocient, c'est-à-dire enjamber vers Doha, que ça revienne ? Est-ce que vous avez des interlocuteurs sur place ? Est-ce que, comment ça se passe quand vous demandez, et j'allais vous demander aussi si, est-ce que vous le demandez tous les jours ?
Voilà.
Laissez-nous approcher les otages.
Alors, donc, situation classique, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les violences, pas spécifiquement après le 7 octobre, mais en général, directement, on perd le contact avec la frange armée du Hamas. Directement. Mm-hmm. C'est un classique, c'est toujours comme ça, parce que, selon leur point de vue, tout contact avec eux les expose. Donc, pour nous, pouvoir engager, c'est via Doha, qui ensuite répercute les informations sur le terrain. Pour ce qui est des otages, je crois que notre position elle était claire quelques heures après le 7 octobre. C'est illégal. Les personnes, il n'y a rien à négocier. Ces personnes doivent être libérées. On devra avoir accès et les personnes doivent avoir accès à l'assistance humanitaire. Maintenant, on le voit bien avec les négociations qui ont lieu actuellement. Ce n'est plus un enjeu humanitaire, malheureusement. C'est devenu un enjeu politique, c'est devenu un enjeu militaire. Et la nature des négociations qui ont lieu aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un espace pour le CICR aujourd'hui, parce que simplement, nous, on ne va pas négocier quelque chose qui, pour nous, n'est pas négociable. Maintenant, je répète, c'est une situation de conflit. Pour que nous puissions travailler, il faut qu'il y ait une cessation des hostilités. Je veux dire, on a déjà eu des collègues qui sont morts, on est prêt à prendre des risques. On prend des risques qu'on n'a jamais pris ailleurs. Le fait d'avoir du staff aujourd'hui à Gaza...
Combien d'ailleurs ?
On a 130 staff. Et une grande partie de ce staff n'est pas uniquement là pour les otages, mais est aussi là pour les otages. Parce qu'il faut savoir que quand il y a une libération, ça ne peut être fait que par des non-palestiniens.
Donc par vous.
Exact.
Vous disiez tout à l'heure que vous parliez de votre difficulté à bouger. Est-ce que vous avez les moyens de bouger au-delà de ce sud de la bande de Gaza ? C'est-à-dire d'aller chercher là où on dit même qu'il y a des vraies poches de famine un peu plus au nord de cette bande de Gaza. Est-ce que vous avez les moyens d'approcher ces populations-là ? Est-ce que vous les avez quasiment perdues de vue, hélas, depuis ces dernières semaines ?
C'est un accès irrégulier. On est retourné à Gaza, donc Gaza, la ville de Gaza, dans le nord. Bon, il faut aussi savoir que nos résidences ont été endommagées, nos bureaux ont été endommagés, il ne reste plus grand-chose à l'intérieur, et puis on voit le niveau de destruction. Nos collègues qui sont retournés dans nos bureaux n'ont même plus su comment y aller, parce qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien. On a vu des choses extrêmement préoccupantes.
En termes de famille,
conditions humaines,
en termes de conditions de vie,
de santé, principalement, et puis aussi d'accès à la nourriture. Alors, utiliser le mot famine, c'est un mot technique, donc faut vraiment, à notre avis, être attentif quand on utilise ce concept-là, parce que c'est quelque chose qui a des conséquences. Quoi qu'il en soit, famine ou pas, c'est une situation qui est juste intenable, et nous, on le voit dans nos hôpitaux. On le voit quand on travaille dans un hôpital où on a notre équipe chirurgicale. On voit très bien les conditions dans lesquelles les gens blessés arrivent chez nous. Et puis souvent, on ne sait pas très bien s'ils meurent des conséquences directes du conflit ou simplement de leurs conditions de malnutrition et de santé. Donc c'est extrêmement préoccupant.
Est-ce qu'on sait dire là, au moment où on se parle, combien de camions parviennent toujours à rentrer dans Gaza ?
C'est irrégulier d'un jour à l'autre, 100, 130, 60. En tout cas, c'est très loin de ce qui est nécessaire. Et je crois que c'est aussi important oui, parlons des camions, parlons du parachutage, parlons des routes maritimes, mais l'enjeu, je veux dire, n'est pas fondamentalement là. Est-ce qu'on est bien d'accord que la population civile à Gaza doit avoir accès à des services essentiels et que cet accès à des services essentiels ne peut pas être conditionné par des considérations politiques, voire militaires? Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Parce que je crois que le fond du problème est celui-là, c'est le droit des conflits armés. Quand j'entends parler de la crise à Gaza, il y a des considérations émotionnelles que je respecte et qu'on doit respecter. Il y a des considérations militaires, il y a des considérations politiques. Et puis en général, arrivent en conclusion des considérations humanitaires. Et je crois que c'est important de rappeler que tous les États ont convenu que le cadre de référence numéro 1 en situation de conflit, c'est le droit des conflits armés. Tous les États ont convenu que la protection des populations civiles n'était pas conditionnée par le politique ou par l'humanitaire. Et aujourd'hui, c'est là où on est. Et je crois que c'est important, et je crois que c'est aussi important pour les journalistes, pour les médias, de prendre comme point de départ le seul cadre possible, qui est celui du droit des conflits armés, qui n'est pas optionnel et qui est juridique.
Vous le disiez, effectivement, le problème, c'est pas tellement ni les camions, ni le largage, ni l'éventualité d'un port qui serait mis par les Américains, d'ailleurs, pour nourrir la population, et encore que, d'ailleurs. Est-ce que, au final, ça vous aide? Et surtout, est-ce que ça nous amène peut-être à autre chose? Parce que on sait bien que l'aide humanitaire peut pas venir par Israël, puisque politiquement, c'est impossible. L'aide humanitaire ne sera pas distribuée par le Hamas, parce que politiquement, c'est extrêmement compliqué aussi. Donc, les largages, un port extérieur, ça permet aussi d'internationaliser cette aide, et d'en faire venir beaucoup plus et dans de meilleures conditions, y compris politiques. Est-ce qu'au fond, vous dites « Allez-y, larguez », parce que à minima, ça nous aide?
Alors, je valorise la dimension symbolique des choses. Je crois que le largage, et je crois que les États qui sont derrière les largages d'aide humanitaire sont, à ce niveau-là, assez transparents. Aucun de ces États n'a l'illusion ou fait croire qu'ils vont résoudre le problème avec ça. Ils sont clairs. Donc symboliquement, c'est important. Maintenant, ça ne résout pas fondamentalement le problème à Gaza. Et puis là, on a sur un autre enjeu qui est ce glissement des États et du politique qui ne peuvent pas faire face à la situation politique et militaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'humanitaire. L'humanitaire est un substitut au politique et au militaire. Et c'est vrai à Gaza, mais c'est vrai dans plein d'autres conflits.
Mais là, particulièrement, notamment lorsque les Américains vont installer un port, sachant que ce sont aussi ceux qui fournissent les armes, on est exactement dans ce que vous êtes en train de dire, dans cette incroyable contradiction qu'on a quand même rarement vue ailleurs. Si.
Je ne sais pas si c'est une contradiction, je crois que c'est la complexité, et puis je crois que c'est la clarté du cadre dans lequel on agit. Je crois que quand on fait du politique, et je crois que le politique est important parce que la solution ne viendra jamais de l'humanitaire. Quand on parle de militaire, on doit être clair sur le militaire. Mais quand on parle d'humanitaire, l'humanitaire, c'est pas la charité. L'humanitaire, c'est pas la bonne action. L'humanitaire, c'est un cadre juridique, c'est un mode de fonctionnement, ça a des principes, ça a des règles. Et jusqu'à présent, et on le voit régulièrement, c'est le seul cadre possible pour donner un minimum de dignité aux gens. Et je refuse ce substitut de l'humanitaire pour l'absence de politique et de militaire.
Une dernière question, Fabrizio Carboni. Vous avez vu comme nous qu'il y avait eu un changement à l'ONU avec des Américains qui ne sont plus en mode veto pour l'instant, en tout cas, mais qui s'abstiennent. Est-ce que pour vous, ça reste quand même un signe intéressant et que vous avez espoir d'un cessez-le-feu-là, ou est-ce que l'expérience à Gaza vous apprend que même ce genre de signes qui font un peu bouger les lignes ne disent rien de ce qui se passera demain, après-demain, à la fin de la semaine, à la fin du Ramadan?
Je crois que l'espoir, aujourd'hui, on doit s'y accrocher parce qu'il n'y a plus que ça. Ceci étant dit, je crois que c'est important, cette résolution, les termes de la résolution. Et puis je disais il y a quelques instants que je regrettais que le droit des conflits armés ne soit pas plus au centre de la réflexion. Maintenant, je dois reconnaître aussi que le langage du droit des conflits armés, du droit humanitaire, est de plus en plus présent. Et je serais injuste de dire, ce serait injuste de dire qu'il est, que dans cette résolution et dans toute l'activité politique autour de cette résolution, il n'y a pas des considérations humanitaires qui n'étaient pas présentes il y a quelques semaines ou quelques mois. Ceci étant dit, l'humanitaire ne va pas résoudre le problème. L'humanitaire, on achète du temps pour le politique et le militaire.
La solution ne viendra pas de l'humanitaire. On vous a entendu, Fabrizio Carboni. Vous êtes le directeur Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge. Merci beaucoup.
Merci à vous.